Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h07, vous êtes de retour à l'écoute des grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi. Marie Martineau, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski et Pascal Duprat ce matin. On souhaite des bonnes vacances à ceux qui en ont en cette période de vacances scolaires. Bon courage si vous travaillez et si vous vous réveillez seulement, vous avez de la chance et vous pouvez retrouver le podcast en plus où Christophe Cessieux a voulu mettre par exemple Djokovic à la retraite. C'était à 10h.
Oui, j'ai pas voulu le mettre à la retraite. Je pense que.
Mais c'est mieux pour lui.
Tu as donné un petit conseil.
Ce serait mieux pour lui.
Les conseils de Christophe Cessieux à Novak Djokovic.
Il est un manager des joueurs de tennis, Christophe.
Dans 30 minutes, les amis, le débat caché. Les GG ne savent rien.
Tu me cherches, toi. Attention, là, on arrive au foot, là. Tu vas m'enfler.
Mais vous le savez, elles vont devoir débattre sur le débat caché. Vous avez une idée, d'ailleurs, du débat caché?
Si, moi, je l'ai
trouvé. Moi, je l'ai trouvé.
Moi, je l'ai trouvé aussi.
Sur le foot, non. Ah, c'est sûr.
Le Paris FC peut-il être champion de Ligue 1?
Vas-y, Pascal. Vas-y, Pascal. Je suis sûr qu'on a le même.
On va parler de tennis mais de table.
Exactement. Voilà. Est-ce que les frères Lebrun peuvent lancer le tennis de table en France?
Est-ce qu'on n'est pas dans une vraie plus grande rivalité de l'histoire du sport français?
Ah non, voilà. Déjà fait ça. Tu vois, je refourgue les débats d'hier pour le débat caché.
On peut gagner un week-end au ski si on trouve le débat caché.
Ça faut voir avec la direction.
Je crois qu'on part du 8 au 12, c'est ça, du 5 au 8, on part ensemble au ski, non?
Vous coûtez trop cher pour les...
Je te vois pas beaucoup sur les pistes quand même, ça.
Non, mais parce que
quand tu vas au ski, tu vas surtout faire du sauna, du harem et des soins.
Et alors,
t'as une image de moi déplorable.
Bon, on verra ça, ça sera dans 30 minutes, les amis. À 11h45 aussi, ça sera les GG et vous le savez, ça c'est votre moment, 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant. Si vous voulez interpeller une grande gueule, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit dans l'émission, vous n'hésitez pas. 32-16, elles sont là pour ça. Mais d'abord, donc à 11h09, Albert Camus disait « Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer ».
Depuis que M. Pilucelli a pris en main l'équipe de Beauvallon-sur-Oise, le moral dans les cafés de la ville est bien remonté.
Ça nous donne de l'ambition, ça nous donne des satisfactions.
Nous avons trouvé celui qui sera capable de redonner à la localité ses lettres de noblesse footballistique. Allez,
ce qui compte, c'est l'efficacité. Dans la vie, c'est ça, il faut être efficace.
Ce jour-là, c'est la déception dans le camp de Pilucelli. L'équipe de Beauvallon est menée 2-0 à la mi-temps.
Les mous du genou, mièvre, moi ça m'énerve. Ah, mais chacun est comme il veut, mais ça me gonfle quoi, en fait.
En deuxième mi-temps, surprenant retournement, 6-2, dont 4 pénaltys.
J'ai cherché à donner mon maximum avec mon équipe de travail pour le bien de l'Olympique de Marseille.
Le football vous dit merci, monsieur Pilucelli.
Marseille, c'est la ville où tous les soldats du monde voudraient être en ce moment. Mais c'est pas une ville pour les soldats.
J'y crois. On est vivant tant qu'on est fort.
Après Céline Dion, Marie Martineau.
Il y a neigé sur Paris.
Vas-y, fais neiger.
Karaoké à fond.
OMPSG.
J'adore. Meilleure soirée de ma vie, les soirées karaoké.
Seulement 3 points, on l'a dit, c'est par les deux équipes. L'OM qui a fait une démonstration offensive le week-end dernier à Montpellier. En parallèle, on en a parlé à 9h. Quelques doutes sont nés du jeu du Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions. Mais l'OM n'a plus battu le PSG au Vélodrome depuis 13 ans. D'où cette question, les grandes gueules du sport. Est-ce l'année ou jamais pour l'OM de battre le PSG? Oui ou non, Marie Martineau?
Oui.
Pascal Duprat?
Oui, même s'il ne faut pas dire jamais dire jamais avec l'OM. Mais oui.
Sarah Pitkowski?
Est-ce l'année ou jamais? Allez, je vais dire oui.
D'accord. Christophe Cessieux?
Je l'espère.
Avant de vous entendre, on va accueillir Florent Germain qui va commenter la rencontre aux côtés de Jeannot Rességuier ce soir. Salut Flo.
Salut François, salut à tous.
Salut Flo.
Alors, tu as assisté évidemment.
Jour de classique. Il est au taquet.
Mais oui, mais tout le monde est au taquet à Marseille. T'as assisté en plus aux conférences de presse, notamment celle de Roberto De Zerbi cette semaine. Est-ce que le PSG fait encore peur du côté de Marseille?
Écoute, la question, elle a été posée de cette manière d'ailleurs à Léo Balerdi qui disait on n'a jamais eu peur, mais on les a toujours respectés. Il y a ce mélange entre détermination et méfiance. Je racontais cette petite scène de vie olympienne qui m'a beaucoup fait sourire vendredi, où en fait sur le chemin entre les vestiaires et la salle de conférence de presse, le service communication a briefé un peu Roberto De Zerbi en lui disant bon, vous risquez d'avoir des questions sur 13 ans sans gagner au Vélodrome en Ligue 1 contre Paris, aucun but marqué depuis 7 ans contre Paris en championnat. Il a dit non, mais c'est bon, lâche-moi avec tes stats là, je veux rien savoir, laisse-moi tranquille. tranquille, laisse-moi dans mon défi. Alors, est-ce que c'est l'année pour le faire? La question a aussi été posée, écoutez, à Léo Balerdi, le capitaine.
C'est un match très important pour nous, c'est un match clé. Peut-être vous pensez qu'il n'y a pas la individualité qu'il y avait avant, comme Mbappé, Messi, Neymar. Mais ils sont une bonne équipe, on doit faire attention et on doit être prêt. Pour moi, il faut les respecter, ils sont une grande équipe, ils sont quasiment tous les années champions. On va mettre l'intensité, on va aller à ce match pour gagner.
Emballer ce match, avoir le ballon, c'est aussi le mot d'ordre écouté de Roberto De Zerbi. Il respecte Paris forcément, mais il veut un OM ambitieux.
C'est difficile de contrer cette équipe parce que si on bloque l'axe, on risque de laisser Dembélé et Barcola dans les couloirs en 1 contre 1. Il faut trouver un juste milieu entre phase défensive et possession du ballon. Ce sera difficile, il faut respecter ces champions de France. Mais quand on signe à l'OM, il est évident qu'il faut avoir l'ambition de pouvoir remporter ces matchs. Sinon, autant changer de club.
Les supporters sont d'accord, stade plein évidemment. Record d'affluence, encore une fois, c'est aussi un petit jeu marketing, mais record d'affluence a priori tout à l'heure. Les supporters y croient, mais rappelez-vous la stat. Donc pas de victoire en championnat. Il y en avait une en coupe, ouais. François. Depuis 13 ans, ça a vacciné vraiment les jeunes supporters. Écoutez, Fred, le papa, et Hugo le fiston qui calme le jeu.
C'est pas le PSG des années précédentes. On voit bien, c'est pas des gros scores, c'est pas des larges victoires. Je pense qu'ils sont moins forts, moins en attaque.
On y croit, parce qu'on a quand même une meilleure équipe que l'année dernière. Le Paris Saint-Germain, ils sont un peu à la ramasse, donc on a espoir. Et allez l'OM.
Je pense que cette année, c'est l'année ou jamais. Ah non, franchement, je pense que cette année, sincèrement, je pense que...
Faut garder
les pieds sur terre, mais cette année, je pense qu'il y a largement la place de faire un résultat.
Ils ont une bonne équipe, ça veut rien dire. Après, Marseille, ils peuvent créer l'exploit comme ils avaient fait en Coupe de France, mais...
On sent que t'es vacciné, que t'en as vu des défaites de l'OM contre Paris, hein, et que ça t'a un peu marqué.
Oui. Ouais, même s'ils ont une moins bonne équipe que l'année dernière, faut quand même faire gaffe.
Voilà, c'est le petit de 11 ans qui calme son père en disant papa, moi je les ai pas beaucoup vus battre Paris. Donc vas-y doucement.
C'est exceptionnel, exceptionnel.
Ah ouais, très bon son.
Franchement, il est génial ce petit. Je sais pas comment il s'appelle, mais s'il veut faire. Voilà, Hugo, tu
es des supporters. Fred le papa, Hugo le fils qui est avec son maillot de l'OM.
Et 32-16, hein, si tu veux nous rejoindre. D'ailleurs, toute la journée, on parle de cette Olympique de Marseille. Nous, c'est vrai que. On s'enflamme peut-être ici pour l'OM, mais parce qu'on a l'impression que il n'y a pas forcément autant d'écart que ça entre l'OM et le PSG, non Christophe?
Oui. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous les ans à l'abord du classique. On se dit, est-ce que c'est l'année ou jamais?
Je sais pas, justement.
Enfin, il y a eu certaines années, ouais. On se les posait quand même. Hein. Je me rappelle avoir débattu déjà du sujet. Mais... certaines années, on était un peu obligé de gonfler nos arguments, de faire semblant d'y croire, de faire semblant, faire croire à nos auditeurs qu'il y avait peut-être un vrai enjeu et qu'il allait peut-être se passer quelque chose. Mais là, cette année, moi, je me force pas et j'ai vraiment l'impression, comme ça, que Marseille peut ce soir battre le Paris Saint-Germain parce que le PSG n'est pas dans une phase en ce moment extraordinaire. Certes, ils ont gagné. Ils sont leaders du championnat, mais enfin, ils n'ont pas battu pour l'instant les Cadors. Hein. Ils ont battu Brest, certes, ils ont battu Lille, Le Havre, Montpellier, Rennes. Ok, c'est bien. Mais le vrai test, c'est contre Marseille, et ce sera ensuite contre Monaco. Cette équipe de Marseille, pour l'instant, tout semble aller bien, dans le meilleur des mondes. De Zerbi est apprécié, à la fois du public et à la fois de ses joueurs. Les recrues, pour l'instant, même s'il y a eu un tout petit...
Il y a eu un petit creux avant la trêve.
Il y a eu deux, trois week-ends, c'était un peu moins bon, mais franchement, ils me font une bonne impression. Et puis surtout, moi, j'ai envie d'y croire. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai envie que cet OM-là puisse battre le Paris Saint-Germain, qu'on ait un vrai suspense dans ce championnat et que Monaco vienne aussi se mêler à la fête. Voilà. Moi j'ai envie. C'est pas que je suis supporter de l'OM, mais si ce soir je serais supporter de l'OM. Ouais. Parce que
c'est pas que t'es supporter de PSG non plus. Hein.
Pardon?
C'est pas que tu sois supporter du PSG non plus.
Je suis plus supporter de l'OM que du PSG.
On aurait compris.
Oui. Et encore plus de l'OGC.
Mais
c'est pas en supporter, c'est en supporter du foot français. Quoi.
Et puis,
on en a marre de s'ennuyer dans ce championnat et qu'on connaisse le nom du.
Alors, avant de te donner la parole, Pascal, Marie.
Oui, il y a une telle disette quand même depuis des années, quand on dit 7 ans sans marquer de but, tu vois, je me dis qu'effectivement, juste pour ça, ça rejoint un petit peu les sensations que tu as quand tu as un petit poussait, que t'as envie de supporter. Enfin là, on est tous un petit peu derrière. Enfin tous, je m'emballe un peu, mais quand tu aimes le sport, quand tu aimes le sport, il y a quand même ce fait de dire l'hégémonie du Paris Saint-Germain. C'est sûr que si ce soir on pouvait lui rompre le coup, ça fait un peu plaisir parce qu'on revient sur un foot où il y a un petit peu plus de suspense. Donc ça, c'est excitant. Après, le fait qu'il n'y ait pas les individualités au Paris Saint-Germain participe beaucoup au fait qu'on puisse y croire. Donc voilà, c'est pas ce soir, c'est jamais. Enfin ouais, je trouve que ça donne envie de regarder ce match. Et ça fait très 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 longtemps que j'ai pas eu envie de regarder un classico de l'époque. Ça remonte où on remonte dans les.
Alors on dit ni classico ni classique ici sur RMC. Le choc.
Voilà. Ah, oui, c'est le choc.
Ok, bah vous voulez me briefer à la pub. Alors moi en Savoie, nous chez nous en Savoie, il y a des gens qui sont vraiment fans du Paris Saint-Germain parce que c'est la capitale, c'est le club de la capitale. Tu as des fans de l'OM parce qu'il y a des fans de l'OM partout en France. C'est un truc de dingue. Et donc on appelait ça un classico. Désolé. En tout cas, c'est les seuls moments où on se retrouvait.
Non marketing.
On se retrouvait dans le canapé chez les uns ou chez les autres pour pouvoir passer une bonne soirée et finir ensemble. Sympa, sinon je reviendrai une autre fois.
Chez moi, donc chez nous, pas très loin de chez toi, on est plus OM, hein, Marie.
Ah oui, du côté Haute-Savoie. Ah ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand même les seuls matchs où tu peux te retrouver chez les uns ou chez les autres en étant pote et en ne supportant pas la même équipe, mais en étant sûr que tu vas passer une bonne soirée. Et moi, ça me manque, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Je crois que ce soir, il va y avoir des gens chez les uns et chez les autres pour passer une bonne soirée.
Vous voulez mon argument? Alors,
bien sûr, avant d'entendre Pascal, vas-y, ça.
J'attends celui.
Oui, c'est pour ça que je tisse
la bonne fenêtre.
Oui, c'est ça. Vas-y, Pascal. Après Pascal.
Ah bon, tu préfères après Pascal?
Alors, en fait,
on conclut.
L'audience, il vaut mieux que je passe.
Mais non. Vas-y, Pascal.
Je suis supporter du foot français, bien entendu, mais mon cœur est plus marseillais que parisien. Néanmoins, je vais pas aller sur votre terrain. Je vais pas aller sur votre terrain du Paris Saint-Germain. Plus faible, c'est faux ça.
C'est
une erreur.
On dit que c'est la ligne de
désherbiste. Non, c'est ce qu'a dit Christophe. C'est ce qu'a dit Christophe et ce qu'a dit Marie, en quelque sorte. Donc moi, je vais plutôt aller sur le fait que Marseille est plus cohérent que la saison dernière, est plus équilibré. Son équipe à De Zerbi, elle semble plus talentueuse aussi, capable de marquer des buts à chaque instant.
Un peu moins le cas du Paris Saint-Germain, capable de marquer des buts à tout instant.
Non, mais là, j'irai pas sur ce terrain-là parce que je pense que Paris Saint-Germain est d'un très très bon niveau et j'espère ne pas me tromper. Tu verras au printemps où là tout se joue, tu verras que le Paris Saint-Germain sera prêt avec une équipe où on comprendra Luis Enrique. Je le souhaite ardemment pour le foot français. Je te rappelle que j'en suis supporter même si c'est pas la question.
Donc
Marseille néanmoins, l'OM passe au révélateur ce soir. L'OM passe au révélateur. Est-ce que l'OM va aller dans la continuité? Si l'OM fait un bon match et arrive à battre le Paris Saint-Germain, alors on peut être sûr d'une chose à Marseille, c'est qu'il y aura certainement un peu moins d'instabilité en fin de saison. J'avance.
Il risque d'y avoir un peu d'enflammade aussi. Si Marseille
certainement,
Paris ce soir,
mais on va vers la construction d'un projet, une bonne fois pour toutes. Pas des changements de coach toutes les années et des changements de joueurs en veux-tu, en voilà. Là, j'ai l'impression que Marseille est dans un rôle pour retrouver les sommets du foot français.
Oui, je m'avance un peu, mais c'est comme ça s'est rapproché quand même là sur cette saison.
Oui,
quand même.
Le
Marseille, avant il y avait un écart énorme, maintenant quand même à Marseille, déjà, rien que Rabiot qui pourrait avoir sa place au PSG.
Rabiot et Hojbjerg au milieu de terrain, ça veut dire que Marseille est équilibré.
Quand même.
Tout simplement parce que c'est deux joueurs de très 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 grand niveau, des fiori class, comme diraient nos amis.
Il y a plus qui pouvait y avoir
italiens.
Avant entre les deux effectifs quand même.
Mais malgré tout, Marseille passe au révélateur. Oui. Parce que si Marseille ce soir venait à chuter, ça serait déjà 6 points. Et ça voudrait dire adieu à la possible, lutte à 3 avec Monaco pour être champion de France.
Ça, voilà mon avis. Là, on compte que les points ou la forme du match, le fond du match peut quand même.
Est-ce que les occasions peuvent valoir un but au bout d'un moment?
Oui, est-ce que le résultat de 2-1, le PSG.
Ça dépend comment tu joues, c'est toujours pareil. Voilà,
mais exactement. Comme tu parles de révélateur, Pascal.
C'est sûr que s'il y a 3-0 au Vélodrome en faveur du PSG, là.
On sera vite douché, là.
Il y aura une
Vous
réponse
voulez
très claire, oui.
Ouais, vas-y.
Tu penses que c'est ce qui va se passer?
Il tient ton argument.
Ouais, bah oui, plus une série est longue, plus elle peut arriver à sa fin. Ça, c'est vrai, ah, oui.
Quelle analyse statistique extraordinaire de ce
match. Non, je vais remonter.
Mais sur ce match, l'OM a plus à perdre que le Paris Saint-Germain. C'est là-dessus qu'il faudrait.
Non, je vais essayer d'élever un peu.
Oui, bah vas-y, maintenant que tu l'as mis bien haut, ça va être difficile.
Je vais rebondir sur Pascal. En fait, l'OM a plus de chances de jouer. On est quel jour? On est le 27 octobre.
Oui,
a plus de chances de battre le PSG au 27 octobre.
Que l'année dernière.
Non, qu'au mois de mai. Si on avait commencé par un PSG-OM, parce que si je crois les arguments de Pascal, le PSG va être meilleur au printemps. Donc, il vaut mieux effectivement que l'OM reçoive le PSG là en maintenant, début de saison, que dans 6 mois.
Ouais, voilà. J'abonde complètement. D'accord. Non, mais c'est vrai, il y a un vrai impact d'être à la maison.
Mais néanmoins, il y aura un match retour. Hein, donc, il va devoir.
Oui, mais après, ils auront un petit doute, tu vois. Ils auront surfé sur ce truc.
Voilà, moi, c'est simplement pour. Comme l'a très bien dit Christophe.
De haut niveau, quand même.
Comme l'a très bien dit Christophe, le foot français a besoin de ce duel-là. Donc, plus il est serré, plus il est indécis, plus l'OM se rapproche de Paris Saint-Germain, mieux le sport français et le football en particulier.
J'aimerais entendre Philippe qui est en train de se spécialiste avec nous. Supporter
est-ce
de Marseille.
Qu'il a des arguments du même niveau que celui de Sarah?
Ça va pas
même.
Être facile. Salut Philippe. Tu nous entends Philippe?
Et les bouche bée.
Philippe, allô?
Allô?
Oui, tu nous entends Philippe, bonjour. Tu es dans les grandes gueules du sport en direct sur RMC.
Voilà. Moi, je vais vraiment être dans la lignée de Monsieur Duprade, carrément même. Je suis supporter de l'OM, bien sûr, et j'espère de tout cœur qu'ils vont gagner. Mais bon, j'ai tellement été déçu les 12 dernières années, ou les 13 dernières années, que je vais regarder le match avec attention, avec un cœur énorme pour Marseille. Mais je pense que j'ai bien peur que ce soir, au mieux, ça ferait un match nul. Je trouve que PSG est beaucoup plus cohérent que l'an dernier. Et je souhaite que Marseille travaille, comme dit Monsieur Dupraz. Maintenant, il faut l'avenir, je crois, qu'avec Monsieur Desherby, qui aura un travail sur du long terme, mais sur un match. Si on parle que de match de ce soir, je pense j'espère qu'on ne sera pas dans la division, mais je pense que si. Donc voilà, moi, je travaille vraiment. Je souhaite de tout cœur que l'OM travaille sur la de pas recruter des joueurs chaque année comme ça. Il travaille sur la
Tu es d'accord avec Pascal Dupraz, parce qu'on dit Dupraz dans le sud alors.
Prononcez pas le Z, s'il vous plaît.
C'est Praz sur Arly aussi.
D'accord,
ben
je vous prie m'excuser.
Praz sur Arly.
Voilà, mais je trouve que.
Laissez finir Philippe. Vas-y Philippe, on t'écoute.
Merci. Chamonix, Christophe.
Non, laissez finir. Philippe, vas-y, on t'écoute. Philippe.
Voilà, juste te dire que même les journalistes se trouvent, c'est le rôle d'enflammer ce classico. Mais voilà, 13 ans que Marseille n'a pas gagné. Alors, bien sûr que l'équipe de Marseille, je trouve, beaucoup plus cohérente, on va dire, que l'an dernier. Mais PSG reste le PSG avec une équipe solide, avec des joueurs extraordinaires, malgré que je peux pas les voir. à fond derrière eux. Okay. Mais j'espère que ce soir, voilà. Et puis un clin d'œil. Moi, je suis supporter de l'OM et supporter de l'USON Rugby Nevers, qui vient de battre Aix-en-Provence. Donc voilà, j'espère que ce soir, avec la victoire de Nevers et avec la victoire de Marseille, je passerai un bon week-end.
Et ben on te le souhaite, bien sûr. Bravo. Philippe. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Merci.
Bonne émission à vous.
Et bon match à toi, les Marseillais qui nous calment sur l'enflammade. Ça c'est assez marrant, mais bon voilà. Merci Philippe d'être passé. N'hésitez pas d'ailleurs. 11h45, c'est votre moment si vous voulez réagir à cette OM PSG 32-16 pour venir affronter une grande gueule du sport. Dans un instant, c'est le fameux débat caché. Est-ce qu'ils l'ont découvert? Est-ce qu'on va parler de tennis de table? On verra.
De ping,
oui, il faut dire ping, exactement. C'est dans un instant sur RMC, dans les grandes gueules du sport. Vous restez avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
11h28, les grandes gueules du sport, de retour en direct jusqu'à midi avant les paris RMC. Marie Martino, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski et Pascal Duprat, le 32-16. Vous pouvez encore le faire pour nous rejoindre dans 15 minutes. Les GG et vous, c'est votre moment. Venez alpaguer la GG qui a dit n'importe quoi selon vous. Vous le savez, les GG n'attendent que ça. Mais d'abord, c'est l'heure du débat caché.
Il y en a
leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Toujours grand moment, les débats cachés avec les grandes gueules du sport qui ne savent rien. Et pourtant, elles vont devoir débattre sur ça, le guet-apens du jour.
Elles savent rien, mais elles savent tout, en fait.
C'est ceci.
Le point de l'année entre Alexis et Félix Lebrun. On vous l'avait dit, c'est deux des plus grands joueurs du monde qui nous offrent peut-être le match de l'année. Le point de l'année, assurément. Et c'est Félix Lebrun qui l'emporte.
Oh,
on n'a jamais
sourire.
Vu ça. Tout le public est debout. Tout le chat est en feu. Vous êtes 80 000 peut-être à découvrir le ping. Et c'est ça toute l'année avec ces phénomènes.
Ah, c'est magnifique.
Et oui, vous l'aviez deviné, on va évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de ce duel fratricide entre Alexis Lebrun et Félix Lebrun avec ce point. Si vous ne l'avez pas vu, hein, ceux qui nous écoutaient, vous allez sur rmcsport.fr, c'est un point
partout.
Exceptionnel.
Il fait un buzz incroyable.
C'est fou ce point là entre les deux frères. Oui. Pour la première fois, Félix a battu son frère dans ce duel en quart de finale du tournoi WTT de Montpellier, un des tournois importants du circuit. Une rencontre de très haut niveau qui a réuni près de 100 000 personnes d'ailleurs devant le Twitch et le YouTube de RMC Sport. On a vu aussi qu'après les Jeux Olympiques, il y a eu.
C'est mieux que les scores de DAZN, ça.
Ah bah, faudrait savoir, mais ils ne donnent pas leurs chiffres.
Bah, vaut mieux pas. En famille.
Mais en même temps, c'est gratuit.
Les chiffres, non.
Non, le RMC, RMC Sport, le YouTube, c'est gratuit. D'où ma question, avec aussi la hausse des licenciés, je voulais le préciser, depuis les Jeux Olympiques. Grâce au frère Lebrun, est-ce que le ping, puisqu'on le dit comme ça, peut devenir un sport majeur en France? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Majeur, non.
Sarah Pitkowski.
Non.
Pascal Duprat.
Non.
Ah bon? Marie Martineau.
Je crains que non.
Ah oui, d'accord. Avant de vous entendre.
Voilà.
Mais c'est pas pour ça qu'on ne s'extasie pas.
On va pouvoir en parler. On va pouvoir en parler.
Tu veux parler quand tu dis sport majeur.
Bien sûr, je vais pas dire par rapport au foot. Mais
Félix Lebrun ne sera jamais Kylian Mbappé.
Mais je vais vous expliquer. Et on va accueillir Léna Marjac, qui elle adore et qui commente pour RMC magnifiquement le ping. Elle est à Montpellier pour RMC. Salut Léna.
Salut François, salut à tous.
Salut.
Je voudrais que tu nous racontes justement cette folie des frères Lebrun, cette folie du ping qui s'est emparée de Montpellier, notamment cette semaine.
Oui, surtout hier soir, alors vous l'entendez, l'ambiance derrière moi, il y avait une salle pleine à craquer et forcément aussi des encouragements partagés pour ce quart de finale entre les supporters de Félix d'un côté et d'Alexis de l'autre. Mais à la table, c'est bien le plus jeune, c'est Félix, 18 ans, qui a été tout simplement le plus fort, victoire 3-7-1.
Surtout quand je vois la fin du match que c'est un peu dur pour lui. Je m'en veux pas, mais parce que je suis quand même content pour moi, mais forcément c'est pas simple.
Et c'est donc la première fois que Félix bat son grand frère. Il a fallu attendre ce sixième match pour réussir enfin cet exploit.
Pour le nombre de fois il m'a charrié après les matchs, cette fois-ci il pourra plus dire qu'il m'a jamais perdu. Donc voilà, c'est fait.
Et puis on s'en souvient tous, c'était au championnat de France cette année, de la célébration d'Alexis quand il avait battu son petit frère. Il était monté sur la table pour célébrer sa victoire. Mais hier soir, Félix a été bien plus sobre, surtout parce qu'on lui a interdit de faire la même célébration.
J'ai pas trop le droit de monter sur la table, il paraît, donc je l'ai pas fait. Oui, je voulais faire moi, si j'avais pas eu des petits bruits qu'il fallait pas trop le faire, je l'aurais fait.
Et je vais vous dire qui a donné l'ordre de ne pas monter sur la table. C'est tout simplement Stéphane Lebrun, le papa de Félix et Alexis.
J'aurais dit c'est bien si vous montez pas sur la table parce que j'ai testé. Et franchement, c'est pas sûr qu'elle tienne. Donc c'était mieux qu'il se casse pas la gueule quand même.
Parce que pour la petite info, c'est Stéphane Lebrun qui s'est chargé d'installer les tables dans la salle. Donc il savait de quoi il parlait. Donc c'était par précaution. Ça aurait pu basculer si l'un des deux était monté, avait mis les pieds sur la table. Mais en tout cas, vous l'entendez, tout le monde garde le sourire dans la famille. Et même Alexis, après la défaite, ça continue d'ailleurs de chambrer le petit frère.
Ouais, je lui dirais que moi, je gagne quand même quand c'est les finales. Mais ouais, c'est sûr, il va me chambrer. Mais bon, j'ai 2-3 trucs pour me défendre encore. Donc ça va aller.
Et puis les choses sérieuses quand même continuent dans la journée parce que Félix a un très gros duel qui l'attend. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 13h pour sa demi-finale à Montpellier. Il sera opposé à tout simplement le joueur le plus fort du moment, le plus en forme, celui qui enchaîne les meilleurs résultats. C'est le numéro 2 mondial, le chinois Lin Chidong.
Et ça sera à suivre avec toi sur RMC et puis sur, donc on l'a dit, le Twitch d'RMC Sport et sur le YouTube également d'RMC Sport si vous voulez voir cette demi-finale de Félix Lebrun. Tu restes avec nous Léna parce que justement tu vas peut-être pouvoir aussi intervenir pour arbitrer ce débat, même si visiblement il n'y a pas de débat. Le ping ne peut pas devenir un sport majeur en France. Alors, je tourne la question autrement. Moi, je me suis posé la question. J'ai que deux filles, mais d'ailleurs, je pourrais poser la question avec mes filles. Mais même avoir un garçon, est-ce que je l'envoie plutôt faire du foot ou faire, par exemple, du rugby avec tout ce qu'on entend? Bah, je pense que je choisis le tennis de table.
Ouais, oui. Bah moi je pense qu'il vaudrait mieux que tu la laisses choisir elle ce qu'elle a envie de faire, mais après c'est un autre débat.
Alors, tu as raison. J'ai mal formulé, tu as raison. Elle fait de la danse classique et c'est elle qui a choisi.
Magnifique. Voilà.
Je suis pour rien.
Alors vous êtes
elle fait de la danse classique.
Elle fait de la danse classique. Ouais. Magnifique.
Voilà. Non, mais en fait, le fait de devenir un sport majeur, ça repose quand même sur moult critères. L'accessibilité à ce sport, et là c'est vrai qu'on pourrait tenter de dire que on peut installer des tables de ping-pong partout, des clubs peuvent se créer.
C'est bien là le problème.
Pourquoi pas en fait, tu vois.
Mais tu pars sur un terrain qui effectivement, j'ai travaillé pour la Fédé tennis de table et je connais le frein en fait.
De mettre des tables et tout, il faut beaucoup de tables pour avoir.
Mais non, mais pour mettre des tables, faut un gymnase faut des horaires. Et généralement, un gymnase,
c'est déjà bien plein.
Sont partagés avec d'autres sports.
Bien sûr.
Avec le badminton, avec le hand, avec le basket.
Oui, mais là, du fait justement de l'émergence du ping-pong, tu penses qu'ils ne vont pas avoir un peu plus de créneaux et un peu plus de pression sur les services sportifs
dans une commune, va voir l'adjoint au sport et va lui dire, écoutez, comme le ping, c'est devenu super tendance en ce moment...
Il y a des licenciés, il y a des gens qui veulent en faire. C'est ça qui peut mettre la pression.
Mais très bien,
il n'y a pas les moyens de les accueillir.
Mais tu n'as pas les moyens de les accueillir.
Il faut mettre les moyens des ambitions, justement.
Mais les moyens des ambitions, elles dépendent des communes et donc elles dépendent des politiques. Vous savez de quoi je vous parle quand même.
Non, pas du tout.
Tu peux rajouter une ou deux tables. Peut-être qu'un club peut aller prendre 30 licenciés supplémentaires. Aujourd'hui, ils sont à un peu moins de 230 000 licenciés. L'année dernière, ils étaient à 210. Donc là, le Brahmania, elle a fait déjà un bond de 20 000 licenciés. C'est top. Mais il y a un moment, t'as un plafond de verre. C'est-à-dire que quand tu mets dans une salle de tant de mètres carrés, quand tu mets 20 tables, tu peux en mettre 22, mais t'en mets pas 30, en fait. Et puis, quand tu as ton créneau entre 15 et 17, parce qu'à 17h, à 19h, t'as yoga, tu l'as dans l'os. Tu peux pas jouer plus que tu... Donc, en fait, quand on dit un sport majeur, il faut qu'il soit culturellement...
accessible.
Oui, mais il faut qu'il y ait une culture de ce sport dans le pays. En Chine, évidemment, tu fais du tennis de table à l'école. Donc, il y a beaucoup plus de joie. Mmh. Nous, on est émerveillés par ce qui se passe avec le tennis de table. C'est génial. Il va y avoir plein de jeunes qui ont envie de s'y mettre. Et peut-être que ceux qui font du tennis de table en loisir, ça va leur donner envie de faire de la compétition. Mmh. Ça, c'est bien. C'est d'organiser de la compétition et de jouer et de se confronter. Mais culturellement, pardon... Ce n'est pas un sport qui est implanté en France. Il l'est de facto aujourd'hui parce qu'on a deux joueurs qui sont exceptionnellement bons.
Et qui sont encore jeunes, donc ça peut durer.
Mais qui sont extrêmement sympathiques aussi. Et qui renvoient une image du sport qui est extraordinaire. Il y a deux frères qui sont dans un sport
de duel.
Ce n'est pas deux frères qui jouent en équipe de France comme au hand. Ou au foot, ou au basket. C'est deux frères qui vont se jouer systématiquement. Dans chaque tournoi, ils peuvent être confrontés l'un à l'autre. Et la manière, les sons qu'on entend, le fait qu'ils se chambrent, mais gentiment, ça renvoie une image du sport. Mais c'est juste ce qu'on voudrait expliquer. C'est que le sport, ça peut être un combat, ça peut être un duel.
Donc tu nous dis que tout ça est extraordinaire, mais que ça ne changera rien.
Non, mais ça ne changera rien pour un problème financier.
Ça a déjà beaucoup changé.
Et à la marche, ça va changer. Mais, on ne poussera pas les murs.
Moi, je trouve que,
malheureusement.
Je pense qu'effectivement, c'est vrai, tu as raison. Dans les communes, dans les communautés de communes qui ont ces compétences de gestion des gymnases, c'est vrai que c'est très compliqué. Il y a déjà plus de place pour tous les sports.
Le planning est serré.
Pour autant, ça pourrait quand même un petit peu évoluer au fur et à mesure. Pour autant que ce sport, il prenne vraiment le vent et c'est le cas, tu vois. Donc je pense que d'une année sur l'autre ça pourrait bouger et que des clubs pourraient se créer et que des au-delà de ça derrière ce qu'on se rend compte c'est que la qualité de ces deux frères Lebrun c'est surtout qu'ils ont commencé à l'âge de 6 mois quoi. C'est-à-dire que pour être bon en ping il faut soit être chinois soit avoir commencé pour des raisons quand même assez extraordinaires très 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 jeune sans quoi tu es sûr que tu ne peux pas performer à très haut niveau.
C'est à peu près valable sur tous les sports hein. Tu es obligé de commencer très tôt.
Non, il y a des sports à maturité plus tardive quand même, Pascal. Mais commencer à 2 ans, tu vois. Mmh. Donc, je me dis, pour faire un sport majeur dans un pays.
Mais tu veux dire que c'est une exception, là, pour l'instant.
Ça peut durer. L'émergence de ce sport grâce aux deux frères, ça peut durer malgré tout.
Oui.
Mais de là à devenir un sport majeur.
Mais quand je dis sport majeur,
c'est
un licencié.
Qu'est-ce que ça veut dire
quand je dis sport majeur?
Un sport majeur, c'est que le football, c'est plus de 2 millions de licenciés. Et le ping-pong, c'est 200 et quelques mille.
Alors, on est d'accord sur le nombre de licenciés.
Alors, sur le nombre de pratiquants, le nombre de licenciés, ou un sport qui est suivi
médiatiquement
par tout le monde, médiatiquement, à la télévision.
Ah oui, mais ça fait
partie de ça aussi.
Regardez,
ce qui s'est passé. Moi, je prends souvent pour parler du ping-pong l'exemple du biathlon. Le biathlon, il n'y a pas énormément de pratiquants en France, mais c'est devenu un sport qui compte. C'est devenu un sport qui compte parce qu'il y a eu des Français qui ont gagné, parce que, comme le ping, c'est un sport très télégénique.
Exactement.
Où les gens comprennent les règles du jeu immédiatement. En ping-pong, c'est difficile de pas comprendre les règles du jeu quand même. Et je trouve que pour ça peut permettre à beaucoup de gens de suivre le ping-pong. De là à en devenir un sport majeur.
Mais je
pense que comme le biathlon, c'est un sport qui peut devenir.
Il est lié en fait à une star française, d'accord. Hein.
Mais regarde beaucoup, aujourd'hui mais regarde le biathlon. Ce qui s'est passé avec le biathlon.
Oui, mais
ça continue, les audiences sur la chaîne L'Équipe fonctionnent
très bien. Oui, mais on n'en parle pas
on n'en parle pas trop l'été.
On n'en parle plus autant qu'avant.
On en parle trop l'été, mais la saison reprend. On avait eu ce débat.
On a aussi l'impression de sportifs cérébrés, pardon de le dire, mais.
Par rapport aux footballeurs, non?
Oui, par exemple.
Je pense qu'on peut y ajouter quelques rugbyman de nos jours, quand même.
Gens normaux, vous voyez.
Tu sais, vous parlez de médiatisation, mais peut-être qu'on est aussi à l'aube d'un changement et que moi, attention Twitch, attention YouTube,
Elle a raison, Marie.
Le modèle économique qui est en train de changer et on le voit puisqu'on voit justement que ça se passe plus du tout très bien avec les droits dans le foot et peut-être qu'on est juste en train d'observer un changement et que le futur du sport, en tout cas pour sa médiatisation, passera par des chaînes gratuites de type YouTube.
Le ping est le sport du futur.
Non, parce que les gens aujourd'hui ont marre de se faire, de devoir payer des sommes folles pour assister à des spectacles sportifs. Et donc, plutôt que de payer, ils vont voir des sports qui sont pour
l'instant. Mais il y a la personnalité, évidemment, des Lebrun. Il y a, tu l'as dit, la télégénie. Et il y a le côté aussi, c'est très court.
Le format plus court.
C'est super.
C'est 4 minutes,
un quart d'heure.
C'est les 4-7, au meilleur des 7-7, c'est 40 minutes maxi.
T'as des points incroyables. Voilà, après, tu peux remettre ça sur les réseaux sociaux. Donc on est d'accord finalement, c'est peut-être pas un sport majeur, mais c'est peut-être le sport du futur.
Non, mais qui est très bien mis.
Il est trendy. Aujourd'hui, on dit qu'il est trendy parce que quand tu fais ton fil info sur Instagram, tu prends des points de ping partout en fait.
Et parce que c'est super.
Mais si t'as pas Instagram, ça marche comment?
TikTok, éventuellement.
On t'enverra les petites vidéos quand même. Pascal.
C'est pour ça que la réponse était non pour nous tous par rapport au fait du major, comme on l'a en tête, et du sport majeur et sur les critères qu'il se... Mais hyper tendance et peut-être en train de renverser les systèmes économiques qu'on connaît dans le sport. Et attendons de voir ce que ça donne.
Et ça repose pas sur... Alors, je vais faire une comparaison.
Allez.
Ça repose pas sur une personne. On sait que la natation aussi, les clubs de natation ont dû avoir une affluence de nouvelles inscriptions, mais elle dépend de Léon Marchand. En plus, il est aux États-Unis, donc d'ici quelques mois, on va peut-être plus le voir autant, en tout cas pas le suivre au quotidien.
Il y a
l'histoire de la fratrie qui est exceptionnelle parce qu'en fait ils sont coéquipiers et ils sont adversaires. Donc il y a un vrai film, il y a un tel storytelling. Que ça plaît à tout le monde.
Tu l'as fait en franglette aujourd'hui.
C'est Jean-Claude Van Damme sans le support.
C'est communicant.
Alors, je cite
comme
Romain.
Toutes les grandes communicantes, tu as vu, elle a des arguments qui frappent, notamment en football.
Je cite Romain sur l'appli RMC, sur l'onglet Direct Studio, qui dit: j'habite dans une ville de 1500 habitants à côté de Lyon. Nous avons 3 créneaux 2 heures par semaine pour le ping-pong, car la mairie veut développer les petits sports, avec au total une centaine de licenciés. Quand la mairie veut, il est possible de faire du ping-pong en France.
J'habite dans une ville de province.
Quand on veut, il y a
9000 habitants. Il y a un club de ping-pong. Ils ont 3 créneaux, je crois, dans la semaine. Ils sortent, ils ont 3 ou 4 tables et tout le monde vient et joue.
Mais c'est très bien. Mais si on veut.
Et c'est pas une grande ville, Sarah.
Mais c'est pas question de ça. C'est de se dire que s'il y a une affluence, comment tu fais? S'il y a une affluence et que le président d'un club de ping dit j'ai 150 gamins qui viennent s'inscrire, et tu les as
accueille comment?
Moi, j'ai acheté une table de ping-pong.
Ce qui est bien, c'est
qu'avec les tables de ping-pong,
ah oui.
Avec les tables de ping-pong, t'es pas obligé d'acheter les chaises. Hein. Donc, c'est ça.
Non, mais après, on peut imaginer quand même que le sport prenant de plus en plus de place dans la vie des gens, on commence à construire un deuxième gymnase pour une ville de 9000 habitants. Tu vois, c'est pas déconnant non plus.
Ça s'appelle l'héritage des Jeux Olympiques. Je pense que ça a pris un.
Marie, on est tellement riche.
On verra.
Construisons des gymnases, on a tellement d'argent.
On va remercier Léna d'être passée, en tout cas, à Montpellier, Léna, qui va vivre ça.
Le pin d'extérieur est en train de se développer. Ça, c'est une piste.
Ah, pourquoi pas.
Le paddle. Oui.
Merci Léna. Et bon match, c'est à 13h. Hein,
oui,
de 13h.
Oui, allez, Félix. Félix.
D'ailleurs, on fera peut-être un bras de fer, Team Félix ou Team Alexis. Ça pourrait être marrant un jour.
Ah non.
Dans les grandes gueules du sport. La finale, ça sera à 17h. Vous restez avec nous, les grandes gueules du sport arrivent tout de suite. Et c'est à vous de prendre les commandes de l'émission 32-16. Vous nous rejoignez pour affronter une DGG. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Pascal Duprat, Marie Martineau, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, ce matin, qui vous accompagne depuis 9h en direct dans les grandes gueules du sport, la dernière ligne droite, avec dans un instant votre moment, le 32-16, pour nous rejoindre et affronter une GG. Mais d'abord, on accueille Nicolas qui est au 32-16. Bonjour Nicolas.
Salut Nicolas.
Nicolas, bonjour, tu sais pourquoi tu es avec nous?
Oui, j'ai participé au jeu.
Voilà. Et tu as gagné. Tu remportes, grâce aux grandes gueules du sport, ton séjour d'une semaine aussi belle dans les Alpes avec Goenia. Séjour pour 4 personnes, forfait inclus.
C'est génial. C'est génial, j'en reviens pas.
Bon, on est content de te faire plaisir. T'es skieur, Nicolas?
Oui, je suis skieur. En plus, on en discutait avec ma compagne ce matin, en fait, parce qu'on a l'habitude d'aller dans ce domaine-là, parce qu'on va souvent à Saint-Sorlin-d'Arves, dans le domaine des Cibelles.
Oui.
Et du coup, ce matin, ça m'a interpellé quand je vous écoutais. J'ai dit, je vais tenter ma chance. Et voilà.
Et bravo. Cool. Bravo, Nicolas. Tu vas pouvoir partir avec Goelia, et avec les grandes gueules du sport. Bravo à toi. Et bonnes vacances à toi. Bonnes vacances à toi. Bonne journée.
Merci beaucoup. Et super émission depuis ce matin. Franchement, c'est génial.
Merci, Nicolas. Merci.
Les grandes gueules du sport sur RMC avec les Cibelles. Domaine inoubliable, accessible à tous, pour faire le plein d'émotions et d'expériences mémorables.
RMC,
les grandes gueules du sport et vous.
Eh oui, vous connaissez le principe, c'est à vous d'appeler le 32-16 pour affronter une GG sur un des débats de la matinée. Julien est avec nous au 32-16. Bonjour Julien.
Bonjour les GG.
Salut Julien.
Tu vas affronter qui, Julien?
Christophe Cessieux.
Ah, on va écouter pourquoi Julien a fait 32-16 et veut affronter Christophe.
Qu'est-ce que vous voulez qu'il le fasse encore triper pour aller sur un cours le matin? Ce mec-là, il s'est toujours construit avec l'adversité et l'opposition avec Federer et Nadal. Aujourd'hui, il se retrouve esselé. Aujourd'hui, tout le monde va dire « Ah, ça va papy, t'es content d'être là avec les jeunes ?» Je pense que lui doit se dire « Mais qu'est-ce que je fais là avec cette génération ?»
On parle évidemment de Novak Djokovic, Julien. Tu es avec Christophe, c'est à toi, on te le laisse.
Alors Christophe, malgré tout le respect et l'immense admiration que je te porte la plupart du temps...
Quand ça commence comme ça, en général...
Là et derrière, tu prends la balance derrière.
Tes propos sont scandaleux. Non, alors... Je peux comprendre pourquoi le sujet de la retraite revient souvent. On part forcément sur l'année 2024.
Ah, il est bon, Julien.
Et moi, c'est pas l'année de trop, moi, c'est la décennie de trop. Ça fait 10 ans que j'aurais dû arrêter.
Non, je parlais de Novak, uniquement. Ouais. On compare souvent par rapport à 2023. Mais attendez, 2023, c'est pas la norme. Il fait une année stratosphérique, 4 finales de Grand Chelem, 3 victoires, le Master en fin d'année. Donc 2024, forcément, c'est un peu moins bien. Mais qu'est-ce qui est moins bien pour Novak? Ça reste une demi-finale à l'Open d'Australie. Une finale à Wimbledon où il sort quand même face au nouveau maître des lieux Alcaraz. Roland Garros, il sort sur blessure. Non, franchement, c'est pas le moment de la retraite pour Novak. Il lui reste, selon moi, bien 12 à 24 mois. C'est quelqu'un qui sait gérer son corps, qui saura gérer son calendrier et sa motivation. Attendez, elle est toute trouvée. C'est un 25e, voire un 26e tournoi du Grand Chelem. Et s'il me reste 30 secondes, on peut faire un petit état des lieux de la concurrence. Alors oui, Alcaraz, évidemment, très jeune, très talentueux, mais très fragile aussi. On n'est pas à l'abri que dans les années à venir, il puisse manquer un ou deux tournois du Grand Chelem. Il est fragile. Et notre cher numéro un mondial, Jannik Sinner, sauf erreur de ma part, on connaît encore pas toutes les conséquences de son affaire extrasportive. Donc je pense que des ouvertures pour un 25e voire un 26e titre du Grand Chelem sont possibles. Donc par pitié, Christophe, ne nous envoie pas le Serbe en retraite tout de suite.
Voilà.
On leur fera fin 2026.
Je veux pas l'envoyer, mais moi je me demande à quoi, comment tu peux arriver, alors évidemment c'est des sportifs de très haut niveau, comment tu peux arriver encore à trouver, une fois que t'as tout gagné, que t'as tout eu, t'as tout obtenu, et que les deux garçons avec contre lesquels tu t'es construit sont plus là, je peux comprendre que vous ayez envie qu'ils continuent jusqu'à 80 balais et qu'ils remportent 300 tournois de Grand Chelem.
Tout de suite tu exagères.
Pas du tout, c'est pas dans mon genre. Mais voilà, moi j'ai peur de l'année de trop, et je trouve que Federer et Nadal ont un peu raté leur sortie.
Mais Christophe, on peut le voir aussi différemment. Peut-être qu'il ne va pas s'engager sur la saison. Peut-être qu'il s'est fixé quelques objectifs. Est-ce que Julien vient de dire, et c'est un argument qui est tout à fait juste.
Peut-être aller faire l'exhibition pour prendre 6 millions de dollars.
Oui, mais ça, de toute manière, quoi qu'il arrive, qu'il joue et qu'il ne joue pas, il la fera l'exhibition. Non, mais ce que Julien va dire et qui est très intéressant et ce qui est vrai, Alcaraz a quand même de nombreux pépins physiques. Donc tu sais pas, enfin tu peux pas lui assurer, même s'il est jeune, s'il joue toute une saison, et on ne connaît pas les conséquences de Sinner, parce que si effectivement le TAS lui met une sanction et qu'il joue pas les premiers mois de la saison, ça laisse de la place, laisse une petite place.
Mais tu nous as dit qu'il y avait Arthur Fils et Mpetshi qui arrivaient là dans les semaines à venir.
Sortez-moi ça direct.
Merci en tout cas Julien d'être venu affronter Christophe. Bravo à toi et tu reviens quand tu veux. Hein. Bonne journée à toi, ça Julien. Va. Merci beaucoup. Salut, Julien. Pascal a fait le 32-16. Bonjour Pascal.
Bonjour les grandes gueules. Comment allez-vous?
Ça va bien. Tu vas affronter qui?
Merci. Moi, c'est Monsieur Pascal Duprat.
Ah, très bien. Voilà pourquoi Pascal a appelé pour affronter Pascal.
Et là, on a l'impression que le garçon, il est perdu. En deuxième mi-temps, Mbappé, il a joué comme la mauvaise version de Mbappé au PSG. Que pour lui. Que individuellement. Donc, en fait, je pense que ça trahit vraiment un mal-être. Vraiment.
Alors, Pascal, on t'écoute. Je te laisse avec Pascal.
Alors, Pascal, cher Pascal, c'est pas vraiment un duel. C'est plutôt, je pense que Pascal a prononcé un mot qui a complètement ensoleillé ma journée de dimanche. D'Mbappé, en parlant de non-intelligence de jeu. Et ça fait 3 ans, 4 ans que j'ai dit que ce joueur est exceptionnel. En revanche, faut arrêter de me dire que ce joueur est intelligent. Dans le placement, dans le déplacement, dans le replacement. Il a joué avec l'un des meilleurs joueurs du monde qui s'appelle Neymar. Et combien de fois je l'ai vu dans les pieds de Neymar au lieu de prendre des espaces comme Cavani et autres. Donc quand là, aujourd'hui, je parle de Mbappé, je me demande si je parle du jet-setter, du chef d'entreprise, du footballeur. Et moi, le conseil que je lui donnerais, c'est, aujourd'hui, il traverse une mauvaise passe. On est d'accord, tout le monde est d'accord, il s'est perdu. Bah, reconcentre-toi sur ton football, réapprends les fondamentaux, parce qu'aujourd'hui, quand je vois que ce joueur, face au Barça, il a été sifflé 8 fois hors jeu. Je fais du football depuis l'âge de 5 ans, j'en ai 58. 8 fois hors jeu, c'est beaucoup quand même, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Ah oui, mais
c'est un professionnel. En tant que professionnel, je crois que c'est un record. Et moi, je suis Ancelotti, je le sors. Voilà.
Oui, il n'est pas sorti.
Aujourd'hui, il n'est pas à sa place. Voilà, il n'est pas à sa place. Donc, je ne sais pas ce qu'en pense Pascal Duprat.
Il va te répondre.
Il est trop sur un piédestal. Et quand Pascal discute de Mbappé, il le met vraiment très, très haut. Et aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un. Voilà, il y a eu un.
Ah, tu penses que Pascal a pris conscience, voilà. Aujourd'hui, voilà. Sur Mbappé.
Non, mais il faut quand même reconnaître que Mbappé, c'est un crack. Et maintenant, il joue sur des qualités essentiellement d'explosivité, de vitesse et d'adresse devant le but. Parce que quand tu marques, l'année dernière, je crois qu'il a marqué 40 buts avec le PSG. Tout le monde a dit qu'il avait fait une mauvaise saison. Non, c'est quand même, en fait, Mbappé, c'est un phénomène, mais c'est un phénomène qui vit aujourd'hui les effets pernicieux du star system du football. Parce qu'hier, je suis pas à sa place. Mais il m'a semblé que il s'était mis comme objectif de casser la baraque contre le Barça, et ça a trahi un manque de réflexion tactique sur le match où, comme tu l'as dit, il est 8 fois hors jeu, il est tout le temps en avance, il est pas connecté à ses partenaires. Et là,
mais attention, il est en avance. Soucis. Pourquoi il est en avance? Il est en avance parce qu'il sait très bien qu'il fait la réflexion. Il n'a plus la différence, il n'a plus la vivacité, il n'a plus cette vivacité.
Il part en avance, mais c'est normal. C'est normal.
Non, c'est plutôt la réflexion sur le jeu, mais je pense qu'il a les, il a le, aujourd'hui, il est pas bien, quoi. Il est pas bien mentalement. Et pour qu'un sportif de haut niveau, soit, comment dire, efficace, efficient dans son jeu, il a besoin d'être serein. Et j'ai pas senti la sérénité hier sur Mbappé. J'aimerais juste rajouter une chose. Son oui. match aurait pu être transformé si Vinicius lui donne le ballon.
Ah oui, d'ailleurs, il a râlé, hein. Tu l'as vu râler un peu, hein.
Voilà. Ouais. S'il lui donne le ballon, il marque dans le
vide. Ça veut dire des choses.
Le match aurait été différent. Ça trahit des états d'esprit dans l'équipe du Real Madrid. Oui.
Et c'est à Carlo Ancelotti de régler ça. Merci beaucoup, Pascal, en tout cas, d'être venu. Merci et bonne journée.
Merci à vous.
Et à bientôt. Tu reviens quand tu veux, bien sûr, sur RMC. Hein,
je croyais que tu parlais à Pascal Duprat. Je lui disais merci.
Merci.
Merci aussi, Pascal.
Merci, François.
Merci beaucoup.
Merci, François.
Tu reviens quand tu veux sur RMC.
Merci beaucoup, les amis. Merci.
T'étais parfait. Pascal, bon match à toi, merci. Bon MPSG.
Merci à vous aussi. Regarder, bon dimanche.
Évidemment, et écoutez,
bon dimanche. Et bravo, mesdames. Hein, quelle expertise sur le football. Bravo, mesdames.
Ah,
bravo.
Sarah, elle a mis la barre très haute.
On nous a fait une proposition pour être dans l'after.
Et bah, pourquoi pas.
Bah, écoute, vous auriez votre place. Bravo.
C'est l'after des chiens un peu.
Non, merci beaucoup, Sarah.
Christophe Cessieux, il finit encore une fois en beauté.
Bah, oui, là, c'est magnifique. Les derniers mots.
Non, mais c'est vrai. Salut, que c'est Sarah. Il déchire sur l'analyse footballistique. C'est quand même très
bon. Ouais. Impressionnant.
On se le dise, quoi.
Marie, merci encore. Et
bon dimanche à tous.
Bon dimanche à vous.
Merci.
Christophe, on te retrouve à l'antenne dans quelques heures.
Bah oui.
Bientôt. Tu vas parler d'OMPG.
Ouais, mais moi, je fais pas le classique. Je fais un petit match l'après-midi.
Pas. Non, mais il y a des super matchs cet après-midi. Il y a notamment un Nice-Monaco à ne pas rater aussi pour toi et pour tous les supporters niçois, tu le sais. Et oui, bien évidemment. On va en parler, tiens, d'ailleurs, dans un instant, les paris RMC avec la Dream Team, avec les meilleures cotes de tous ces matchs de Ligue 1. Et bien sûr, du choc de l'affiche de rêve ce soir au MPSG. Vous restez avec nous sur RMC. À tout de suite.